Aujourd'hui, il y a une très large prise de conscience dans la région des contraintes majeures qui pèsent sur le développement de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et notamment sur la question de l'eau, qui est une question absolument fondamentale, puisque cette région, en moyenne, le citoyen a seulement 10% de l'équivalent que le citoyen du monde a à sa disposition. Et ces ressources continuent à décroître à un rythme extrêmement élevé en raison en particulier de la croissance démographique, des demandes des différents secteurs et puis de la pression des changements climatiques. Alors c'est aujourd'hui qu'il faut prendre des décisions sur cela et cette initiative a mis ensemble les pays. Il y a maintenant une plateforme d'échange d'informations et des connaissances, mais il y a aussi des projets concrets qui sont en cours de mise en œuvre dans différents pays sur la gouvernance de l'eau, sur les technologies qui améliorent la productivité agricole et la productivité de l'eau et même sur des technologies d'avant-garde pour la conservation pure de l'eau.
Justement, quels sont les exemples concrets que vous avez en tête ?
Un exemple concret que nous avons en tête, c'est le programme pour le blé en Égypte, mais aussi des suppléments d'irrigation dans les zones arides ou des suppléments d'irrigation à point permettent d'améliorer la productivité agricole sans accroître de façon importante la consommation de l'eau. Et puis, il y a ce projet de conservation de l'eau à grande échelle, l'agriculture sous protection aux Arabes Unis, qui est là à titre pilote avec l'Université de Berlin, avec des nouvelles technologies qui permettent un recyclage complet de l'eau. Mais il y a aussi des directives que nous avons publiées sur l'utilisation des eaux saumâtres qui ont un bon potentiel encore inexploré dans la région.
Comment est-ce que vous arrivez à envisager des politiques de long terme alors que la situation humanitaire fait que c'est la priorité ? Je pense à la Syrie, je pense au Yémen, je pense à la Palestine.
C'est la Syrie, mais aussi en Irak et au Yémen. L'ampleur des mouvements forcés de population a des conséquences sur l'eau. Il y a de nouveaux établissements de population au sein de la Syrie, en dehors, au Liban et en Jordanie. Et on n'a aucune aujourd'hui preuve que ces populations qui sont installées sont installées dans des lieux où il y a suffisamment d'eau. Alors, la consommation dans ces conditions de l'eau est extrêmement polluante et elle a des conséquences à long terme. On a aussi des préoccupations majeures. Est-ce que ces populations reviendront ? Est-ce qu'elles reviendront là où elles étaient ? Et alors, si on prend le cas de la Syrie qui produisait énormément, qui avait une grosse production agricole, et cette population qui est rurale et à l'origine agricole est aujourd'hui un petit peu perdue pour les pays. Donc, c'est un capital humain qui est perdu. Alors, on est extrêmement concerné et ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye d'attirer l'attention des partenaires, des donateurs.
Et alors, finalement, du coup, la priorité, c'est quoi ? C'est plutôt de s'en concentrer sur les pays qui accueillent ou alors, justement, sur les pays qui sont en guerre ?
Mais nous, si vous voulez, on les prend tous ensemble parce que nous pensons qu'il y a une même crise, si vous voulez. Il faut qu'on sache qu'on se remette cette question des réfugiés dans le grand ensemble. Les premières sources aujourd'hui de fixation des populations, c'est à l'intérieur de la Syrie. Sauf qu'il s'agit d'un déplacement interne. Donc on doit appuyer les populations qui accueillent les déplacés en Syrie et les zones dans lesquelles ces déplacés vivent pour essayer de fixer le maximum. Ça, c'est notre priorité numéro un. Notre priorité numéro deux, il faut absolument appuyer les pays avoisinants pour des solutions durables. Tourner la crise à chaque fois que cela est possible en une opportunité de croissance et opportunité de développement pour les pays qui sont avoisinants. Par exemple, on dit qu'au Liban, vous savez, il y a des terres agricoles qui ont été abandonnées depuis la guerre civile. Ces terrasses, par exemple, pourraient être rapidement mises en valeur grâce, entre autres, à de la main-d'œuvre syrienne qui est là et qui est productive. Et ceci peut être un exemple de solution gagnant-gagnant sur le court et le moyen terme.
Les trois initiatives, donc il y a la résilience, il y a l'eau, il y a la petite agriculture. C'est encore les défis pour les années à venir ?
Absolument. Nous pensons que ce sont les mêmes défis qu'il faudrait voir dans un contexte plus grand, qui est le contexte du développement durable. Ce sont les mêmes défis qu'il faudrait maintenant les croiser avec les questions des changements climatiques. Les changements climatiques sont une menace pour l'eau, sont une menace pour la résilience et sont une menace pour la petite agriculture qui est celle qui a le moins de moyens pour s'adapter éventuellement aux effets des changements climatiques. Il faut les croiser avec la dimension de la nutrition et de la consommation durable, de la consommation responsable, puisque le monde tout entier aujourd'hui comprend qu'on ne peut pas continuer sur les mêmes rythmes de consommation, les rythmes de consommation qui imposent une pression considérable sur notre terre, qui ne peut être supportée demain. Et ceci vaut encore plus pour nous, pour notre région, parce que c'est une région aride qui a à l'évidence une base de ressources naturelles plus limitée. Donc oui, ce sont les défis de demain, mais ce sont les défis de demain qui doivent prendre en compte de façon claire et forte d'autres challenges, le changement climatique, la nutrition, la question aussi de la femme, de la pauvreté rurale et de l'emploi des jeunes.